Radio Barc, donc, pour notre troisième partie de cette cinquième, Nicolas Saint-Cluc, notre invité. Je disais tout à l'heure, monsieur Saint-Cluc, que vous êtes conseiller municipal d'opposition dans la ville de Narbonne. Vous êtes d'ailleurs le porte-parole de ce groupe. Et puis, vous siégez également au département en tant que conseiller. Vous siégez également à l'aglo. Mais on vous voit peut-être davantage, en tout cas sur la ville de Narbonne, de par ce rôle de porte-parole du groupe à la fois municipal et de l'association J'aime Narbonne qui, personne ne le cache, est une association qui vise de la conquête de la mairie.
Tout à fait.
Hein, ouais, voilà. Soyons.
Le président a changé,
C'est un collègue, si je puis dire, de Nicolas Saint-Cluc, puisqu'il est aussi conseiller départemental socialiste, Patrick François.
Oui, oui, voilà. Le président a changé récemment, tu as raison de le souligner, Michel. Bon, alors, un des gros dossiers du moment, monsieur Saint-Cluc, dans lequel vous vous illustrez, vous et certains de vos collègues, c'est la salle multimodale que monsieur Mouly, le maire de Narbonne, veut construire à l'endroit que tout le monde, que les Narbonnais commencent à connaître maintenant, parce que le sujet est très controversé. Et vous avez tenu, il y a quelques jours, une conférence de presse pour rappeler le pourquoi de votre opposition. Alors, quel est-il ?
Le pourquoi, il est divers. Il n'y a pas un seul argument. Il y en a beaucoup. Mais on n'est pas opposé pour être dans l'opposition et pour dire, voilà, c'est ce qu'ils font, c'est pas bien. Et c'est juste politique. On n'est pas dans les caricatures. Vraiment, il y a beaucoup de gens, d'ailleurs, on l'a vu, qui se sont exprimés sur le sujet. Nous sommes restés un peu en retrait, d'ailleurs, hein, pendant un certain temps.
Oui, par rapport à un mouvement citoyen.
Voilà, parce qu'on s'est aperçu que finalement, ce sujet, eh bien, était pris par les citoyens et ils s'en sont emparés et beaucoup de choses intéressantes ont vu le jour et notamment finalement on s'est aperçu que le principal souci c'est l'emplacement qui va effectivement poser de graves dysfonctionnements tant au niveau de la circulation des flux de circulation qu'au niveau aussi de l'environnement. Nous avons été en tant qu'élus d'opposition, nous avons été voir effectivement le cahier hein, et le projet puisque il y avait la possibilité d'aller vérifier ce qui avait été prévu dans ce projet. Et on a été très étonnés de voir qu'il n'y avait aucune étude d'impact, aucune étude sur la circulation, aucune étude sur la faisabilité aussi de ce projet, d'un niveau aussi d'un point de vue économique. Ce qui fait que vous avez à la fois des dysfonctionnements pratiques, c'est-à-dire que vous allez avoir des problèmes de circulation, des problèmes de sécurité, des problèmes vis-à-vis de l'environnement, mais vous allez aussi avoir des problèmes de financement. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment cette salle va être financée et on ne sait pas non plus quel va être son coût de fonctionnement et comment il va être supporté. Donc c'est toutes ces difficultés qui font qu'effectivement nous sommes contre cette salle multimodale.
Parce que ce projet figure très clairement pour monsieur Mouly dans son programme électoral. Donc
oui.
On ne peut pas l'accuser de ne pas tenir sa promesse.
On ne peut pas l'accuser de ne pas tenir sa promesse. Par contre, dans son programme électoral, me semble-t-il, et d'ailleurs dans le premier document qui a été soumis au public entre guillemets, c'était donc le marché de 2015, le coût de la salle était estimé à 14 millions d'euros. Je dis bien que la salle multimodale. Il faut savoir quand même que c'est un projet en deux étapes. Ça aussi, c'est caché par Monsieur le Maire hein, dans sa délibération, par exemple du 25 septembre 2015. Il est bien précisé que c'est une construction en deux étapes. Tout d'abord, une grande salle multimodale, et ensuite une salle annexe Omnisport. Et cette salle donc était évaluée à 14 millions d'euros hors taxes au tout début. Donc ça faisait 16,8 millions me semble-t-il. Et aujourd'hui on est à 23,4 millions. Et encore on n'est pas dans la phase opérationnelle. Donc les coûts ont augmenté de plus de 43%. Et surtout il y a le problème aussi du financement. Ça n'a pas été non plus prévu. Donc on passe d'une salle de 14 millions à 23 millions d'euros. C'est pas du tout la même chose. Et ensuite l'emplacement aussi. Cet emplacement, pas de parking, aucune zone de parking prévue, alors que vous allez avoir le Murena qui va être bientôt, qui sort de terre et qui va bientôt donc accueillir du monde. Vous avez le quartier Est où il va y avoir plus de 1000 logements qui vont être créés avec la disparition du parking du parc des expositions, le plus grand parking, hein, qui est juste en face. Alors donc vous comprenez bien qu'il va y avoir un souci majeur au niveau de la circulation, des embouteillages et aussi du parking. On va avoir un parking sauvage partout, des riverains qui vont être embêtés. Ben, c'est quand même étonnant de voir que tout ça n'a pas été prévu.
Alors à ce sujet, justement, M. Mouly répondait à notre micro il n'y a pas très longtemps sur ce problème. Et lui, à propos des places de parking, disait que la ville essaie de récupérer auprès d'Alenis, la société d'économie mixte, un certain nombre de terrains qui jouxtent l'aspirateur et puis le fameux parking actuel qui est devant le parc des expositions afin de les conserver en tant qu'aire de stationnement.
Alors c'est ce qu'il dit pour l'instant. Moi, en tout cas, pour l'instant, je n'ai rien vu passer sur le sujet. Hein, que ce soit, moi, j'ai pas vu de délibération. Voilà. Après, peut-être qu'il y a des discussions informelles. En tout cas, moi, je ne suis pas au courant de ces discussions informelles. En tout cas, ce que ça montre, c'est que notre opposition, puisqu'on parle toujours d'une opposition qui serait stupide, qui serait toujours une position de factice, on s'aperçoit que nos arguments touchent. Et commence à faire mouche. C'est-à-dire que même le maire commence à se dire, oula, 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 finalement, cette opposition, j'aime Narbonne, ils ont peut-être raison. Je vais peut-être avoir une belle salle, mais qu'est-ce qui va arriver derrière? Comment va-t-elle pouvoir fonctionner s'il n'y a pas de parking? Mais ce que j'ai entendu aussi de monsieur le maire, je crois qu'il est intervenu hier à votre antenne, j'ai entendu qu'il disait que, finalement, il comprend pas pourquoi l'opposition, je le cite, hein, il comprend pas pourquoi l'opposition, il est surpris que cette opposition, finalement, soit contre cette salle multimodale, parce que le 24 septembre 2015, on aurait finalement accepté que le marché de conception-réalisation
était fait.
C'est ce qu'il a dit. Non, mais c'est quand même extraordinaire. Moi, je l'ai cette délibération sous les yeux, du 24 septembre 2015. À aucun moment, il n'est indiqué dans cette délibération qu'on doit se prononcer sur le choix du marché. À aucun moment. Cette délibération, c'était pour désigner, à la proportionnelle au plus fort au reste, les membres du conseil municipal ainsi que leurs suppléants à siéger au sein du jury. On n'a pas à choisir le marché, quel type de marché il s'agit. Et M. Marc Ortiz avait tout intérêt à se proposer pour être membre du jury. Pourquoi? Parce que il pouvait de ce fait s'opposer au projet, mais aussi regarder les choix qui allaient être faits. Et pour avoir, qu'on ait aussi un droit de regard sur ce qui allait être fait, poser les bonnes questions. D'ailleurs, à tel point que...
Et M. Ortiz siège aujourd'hui sur la commission d'appel d'offres.
Tout à fait. Et dans cette commission, d'ailleurs, M. le maire, d'ailleurs, dans le cadre du recours que M. Ortiz a exercé, a produit un procès-verbal, un extrait du procès-verbal de la décision de la commission d'appel d'offres du 28 juin 2017, sur lequel M. Ortiz a bien fait inscrire « Nous sommes contre le projet de cette salle multimodale ».
Alors, une petite précision, Nicolas Saint-Cluc. Vous dites le recours que M. Ortiz a déposé. C'est M. Ortiz lui-même ou c'est le groupe ?
C'est M. Ortiz lui-même. Pourquoi ? Parce que lorsqu'un conseiller municipal dépose un recours, il a beaucoup plus de moyens, à la fois sur la forme et sur le fond, c'est un problème en fait d'intérêt à agir. Donc c'est assez technique, mais les conseillers municipaux ont beaucoup plus de possibilités d'attaquer le recours qu'une association. Voilà, donc c'est pour ça que c'est lui qui le porte. Et puis, comme il est membre de la commission aussi, c'est quand même la personne qui connaît le plus le sujet.
Donc c'est en son nom personnel et non pas au nom du groupe d'opposition.
Tout à fait, c'est en son nom personnel. Bien entendu, il est soutenu par tous les membres de J'aime Narbonne.
Ah, ben, t'as une action collective, en fait, devant un tribunal administratif.
Oui, voilà, une précision qui est utile à ce niveau-là. Donc... Une polémique qui dure, vous apportez un certain nombre de précisions, monsieur le maire en a apporté d'autres, certaines sont contradictoires, là encore, il est difficile de s'y retrouver.
Par contre, il est peut-être difficile de s'y retrouver si effectivement on joue un peu un jeu de ping-pong, mais vous remarquerez que le maire ne répond pas sur certains points. Il répond pas sur le point surtout du financement. Moi, je vous l'annonce déjà, on l'a bien compris lorsqu'on nous a présenté le débat d'orientation budgétaire, il va avoir recours à l'emprunt. Un recours à l'emprunt qui va donc augmenter la dette par habitant, puisqu'il nous présente comme en ayant une dette par habitant qui est relativement faible. Donc déjà, il nous prépare à augmenter la dette.
C'est-à-dire que le financement serait uniquement municipal.
Bien sûr, et en grande partie par l'emprunt. Donc il va endetter les Narbonnais sur cette salle. Mais surtout, l'investissement encore, c'est une chose. on dépense 23 millions d'euros. Effectivement, ça fait marcher le BTP, les entreprises. Pendant un certain temps, ça crée de l'emploi, pendant un temps limité, bien sûr. Limité. Mais après, nous avons le fonctionnement. Et là, lorsqu'on a assisté à la réunion publique, une personne au sein de l'assistance a posé la question à l'architecte, combien va coûter cette salle en fluide, c'est-à-dire en électricité, en eau, et puis il faut les rajouter aussi, l'entretien, le personnel. Elle n'a pas su répondre. Sur les fluides, elle a dit, pour un bâtiment de ce type, je ne peux pas vous dire. On est dans le flou le plus complet. Or, une salle multimodale de ce type coûte en fonctionnement entre 2 et 3 millions d'euros. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les associations en Narbonne, le budget pour les associations en Narbonne de la ville, il est de 2,2 millions d'euros. Et dans ces 2,2 millions d'euros, vous avez essentiellement les clubs sportifs les plus importants du territoire, à savoir le RCNM et le volley. Et vous avez aussi le hand et le foot. Et certaines de ces associations attendent désespérément cette salle pour espérer pouvoir se maintenir au plus haut niveau et avoir des recettes supérieures. Mais c'est un doux rêve. Parce que M. le maire, qu'est-ce qu'il a indiqué lors de la réunion publique ? Qu'il allait peut-être confier cette salle par une DSP, donc une délégation de services publics, à un privé. Mais il faut savoir que si c'est le cas, ce délégataire fera payer chaque match, fera payer cette salle. Et donc, du coup, vous allez avoir d'un côté la ville, qui va devoir d'ailleurs, chaque année, faire une subvention d'équilibre, parce que cette DSP ne pourra pas se faire sans qu'il y ait une subvention d'équilibre de la ville. C'est impossible. Je connais aucune structure, et surtout dans notre environnement. Vous pouvez regarder à Montpellier, vous pouvez regarder à Béziers, vous pouvez regarder tout autour de vous, et dans des zones d'ailleurs où il y a beaucoup plus d'habitants qu'à Narbonne.
Eh bien, oui, exemple, l'Areva à Montpellier.
L'Areva à Montpellier, on sait quelle est la situation. Eh bien, vous allez vous retrouver avec, finalement, une structure qui va faire en sorte que les associations sportives paient leurs prestations, les matchs, et avec l'espoir de remplir à hauteur de 4 900 personnes à chaque fois, c'est quand même un doux rêve là aussi, et avec l'inconvénient, c'est que la ville va dire après ces associations, mais regardez, maintenant vous avez cet outil, vous devez faire vos recettes avec cet outil, et nous, au niveau des subventions, on ne peut plus assurer. Et on vous retire les subventions. Et ce qu'ils ont perdu d'un côté, ils le récupéreront pas de l'autre. Et c'est ça qui est grave. Et c'est ça dont elles doivent avoir confiance. C'est-à-dire qu'avec ce genre de structure, avec un tel financement, et avec un tel flou artistique où il n'y a aucun plan de business plan qui a été fait, mais on va se retrouver avec quelque chose qui va nous coûter tous les ans entre 2 et 3 millions d'euros d'argent dilapidé tout simplement, alors qu'on aurait pu le mettre ailleurs pour d'autres structures ou d'autres, en tout cas, investissements qui sont peut-être plus urgents que cette salle multimodale.
En tout cas, à vos yeux et aux yeux du groupe d'opposition municipale. Alors, Monsieur Saint-Cluc, changeons un petit peu de sujet. Vous êtes membre du Parti Socialiste, vous l'êtes toujours. Vous l'êtes toujours.
Ah, tout à fait.
Voilà.
Donc, je suis fidèle.
Voilà. Vous faites partie de ceux qui y sont restés. Vous allez nous expliquer pourquoi, puisque certains en sont partis, et pas des moindres. Exemple, Monsieur Bascoul, président de l'agglomération. Donc, aujourd'hui, vous n'ignorez pas quand même la situation difficile du Parti Socialiste, et Michel Santo l'a fait remarquer plusieurs fois avec des chiffres.
Il a dit qu'il y avait peu de députés.
Ben oui, ce qui reste,
il a indiqué, mais c'est des bons restes.
Alors, ça veut dire que vous continuez à croire en l'avenir du Parti Socialiste au niveau local et au niveau national.
Je continue à en croire. Je suis pas croyant, sachez-le. Moi, je crois qu'en ce que je fais, ce que je vois, je suis assez cartésien. Donc, moi, ce que je pense, c'est que déjà, on est dans une période de reconstruction. Effectivement, on le dit depuis très longtemps d'ailleurs, mais je crois que là, on a touché le fond. Et quand on touche le fond,
parce que la reconstruction à l'époque de François Hollande, c'était facile avec l'argent qui tombait, les
Tout
députés, le pouvoir. Ça n'est plus le cas.
Ce n'est plus le cas. Donc là, effectivement, on se retrouve en bas. Et en bas, il faut rebondir, il faut reconstruire, et c'est pas le moment de quitter le navire. Moi, j'estime qu'il ne faut pas quitter le navire. Au contraire, il faut avoir un projet de société. Ce qui manque aujourd'hui dans le discours politique, c'est qu'on n'a plus qu'un discours de gestionnaire, bien souvent, il faut prendre le train, il faut faire attention, il y a des opportunités à prendre, il faut prendre cette direction, il faut aller dans la numérisation, il faut. Et il n'y a aucun projet derrière de société. Quel est le projet de société? Pourquoi le progrès? Où veut-on aller? Pourquoi faire? Est-ce que le but, c'est d'être plus heureux ou pas? Est-ce qu'on doit vivre? Comment doivent vivre les hommes dans cette société? Comment on imagine la société de demain? À quoi sert la communication? À quoi sert le progrès? Il n'y a pas toutes ces interrogations. Aujourd'hui, on est dans un train fou qui va de plus en plus vite, un train à grande vitesse qui s'accélère de plus en plus, et on en oublie le fond, on en oublie la pensée. Il n'y a plus de pensée. Et donc, il est temps, effectivement, que l'on se remette autour d'une table et qu'on revienne à la base. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous rassemble? Qu'est-ce qui nous motive? Qu'est-ce qu'on veut pour que, effectivement, nos concitoyens vivent mieux? Comment on fait en sorte aussi que la redistribution des richesses, eh bien, se fasse réellement? Parce qu'aujourd'hui, on est dans une société au niveau international, mais aussi national, qui est de plus en plus inégalitaire. Et la théorie
égoïste.
Où la solidarité est de moins en moins prégnante. Et ça, c'est quand même très embêtant. On le voit aussi au sein des familles. La solidarité, c'est le fondement de toute société. C'est ce qui nous permet de vivre ensemble aussi de manière apaisée. Et si plus les inégalités vont augmenter, et plus la société sera violente. Et donc, il est temps qu'effectivement, on se pose les bonnes questions. Et moi, en tout cas, au niveau du Parti Socialiste, c'est ce que je veux faire. En tout cas, voilà, c'est dans ce sens-là que je veux œuvrer.
Oui. Alors, justement, comment expliquez-vous, Nicolas Saint-Cluc, que le Parti Socialiste, qui a quand même quelques décennies d'existence et de pouvoir, et se soit éloigné de cette mission première?
Je crois aussi que le Parti Socialiste, il s'est composé de... Enfin, vous savez, quand un parti commence à avoir aussi beaucoup de succès ou qu'il a à un moment donné tous les pouvoirs, hein, parce que ça a été notre cas, vous avez un phénomène d'absorption d'un certain nombre de personnes aussi qui sont socialistes aussi peut-être, mais qui ont oublié le nom...
Par opportunisme aussi,
qui ont peut-être oublié aussi les fondamentaux. On a aussi le problème aussi que l'on a, ça je parle du statut de l'élu, hein, carrément, je pense qu'on a trop aussi de personnes qui vivent de la politique. Mmh. La politique, ça ne devrait pas être un moyen de subsistance. On devrait aussi faire en sorte que les jeunes puissent entrer en politique. Mais pour qu'ils puissent entrer en politique, il faut qu'ils soient aussi actifs et il faut qu'ils puissent se dégager du temps. Mais il ne faut pas que ça devienne aussi des professionnels. Si vous devenez un professionnel de la politique, la seule chose après qui vous motive, c'est votre réélection. Parce que derrière, vous n'avez plus rien. Et ça, c'est un grand souci. Je pense que moi, c'est important d'avoir des hommes politiques ou des femmes politiques qui ont aussi une activité.
Excusez-moi, Nicolas Saint-Cluc, mais je ferai remarquer que vous remettez en cause, si je puis dire, 30 ou 40 années de la vie politique passée où... Quels sont essentiellement les gens qui se font réélire et les carriéristes, les énarques, qui alimentent cette caste en grande, grande partie? C'est-à-dire, vous remettez en cause un fonctionnement profond.
Je remets en cause un fonctionnement profond, tout à fait. Mais d'ailleurs, les gens sont assez contradictoires. Quand vous êtes élu au niveau local. Quand j'étais adjoint, par exemple, à la mairie de Narbonne, tout de suite, on m'a demandé, mais vous arrêtez donc avocat, vous n'êtes plus avocat. Je dis, attendez, non, mais c'est pas parce que je suis adjoint à la ville de Narbonne que je peux pas continuer mon métier. Et en même temps, les gens veulent des gens qui leur ressemblent, ils veulent des gens qui soient actifs, qui ne vivent pas. Mais en même temps, vous apercevez que c'est compliqué parce que la politique, c'est à la fois être présent sur le terrain, mais c'est aussi gérer des dossiers, savoir prendre de bonnes décisions et avoir de bonnes personnes aussi avec qui travailler et de bons éléments. Alors après, sur le système dont vous parlez, c'est-à-dire est-ce que l'ENA est le meilleur moyen et la meilleure source de création de fonctionnaires, en tout cas de haut placés, qui vont après nous permettre de faire les meilleures politiques possibles sur les territoires. Peut-être qu'il faut se poser des questions, effectivement, sur ce.
Mais statistiquement, ça n'est un secret pour personne que c'est la majorité des gens qui occupent les
postes. Oui, notamment Bercy, hein, qui effectivement a beaucoup de
finances, mais pas seulement les finances.
Oui, il faut savoir.
À propos de carriérisme, personne ne peut ignorer que, par exemple, en 2007, vous aviez une candidate. En 2012, 5 ans après, vous aviez un candidat qui était l'ancien conjoint, en quelque sorte, de la précédente. Vous avez eu comme candidate une fille qui était la fille du père d'un ancien candidat. On a l'impression qu'on est dans un microcosme politique à ce niveau-là. C'est le contraire de ce que vous souhaitez.
Oui, je pense qu'il faut, il y a besoin de renouveau, il y a besoin effectivement de revoir toutes ces règles. Après, Michel indiquait que c'était du Macron. Alors moi, je connais pas toutes les pensées de Macron. Sur certains points, sur certains éléments, je peux être d'accord avec lui. Sur d'autres, moi, ce que je regrette par rapport à Monsieur Macron, j'ai pas été vers lui parce que moi, je pense que je voulais aussi voir s'il avait plus de Rothschild que de sa grand-mère ou l'inverse. Et je me suis aperçu aujourd'hui que pour l'instant, il a plus de Rothschild que de sa grand-mère. Après, sur certains points, notamment ce que j'ai vu récemment, par exemple sur le au niveau des médailles d'honneur, il veut faire en sorte que ce soit plus élitiste et que ce soit pas tout le monde qui a accès à cette médaille d'honneur. Je partage tout à fait sa vision là-dessus. Sur d'autres éléments aussi. Par contre, sur la baisse, par exemple, des allocations familiales de 5 euros, et surtout parce qu'il y a un rapport au niveau national qui indique que certains HLM sont mal gérés, eh bien, il faut faire baisser de 5 euros ou plus le montant des loyers à tous les HLM de France et de Navarre. C'est mal connaître les territoires et mal connaître les disparités entre les territoires, et notamment celui de l'Aude, où malheureusement, et en particulier le Narbonnais, où malheureusement, on avait les loyers les plus bas de France, à tel point d'ailleurs que lorsque nous étions aux manettes, on reversait 30 000 euros d'allocation à la CAF parce que les loyers étaient moins importants que les APL.
Voilà, en tout cas, merci, on va conclure là-dessus. Merci Nicolas Saint-Luc d'être venu à la fois avec votre casquette donc de conseiller municipal, mais également avec cette vision politique au bon sens du terme, c'est-à-dire au sens de l'idéal politique, et de nous avoir fait part de ce que vous ressentez aujourd'hui. Notre prochain invité pour Radio Barque sera un autre conseiller communautaire, mais qui lui fait partie des vice-présidents, et il est maire de Saint-Marcel, et il s'appelle Guillaume Heras. Il est responsable notamment à l'agglomération des choses de l'environnement. Merci en tout cas de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.
Merci. À bientôt.